Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était en 1983, l'été sur France Culture. Michel Cazenave proposait une série consacrée à la Syrie, un survol de l'histoire de la Syrie depuis ses origines jusqu'à la fin du 19e et le début du 20e siècle, lorsque la Syrie rentrait dans l'époque moderne. La Syrie, qui représente l'un des endroits les plus anciens de la présence humaine, le paléolithique, puis la révolution du néolithique, une nouvelle manière de travailler la pierre et puis l'évolution des techniques agricoles. La Syrie, un berceau de culture, d'où sont sortis un grand nombre de civilisations classiques. Avec Adnan Bouni, directeur en chef du service des fouilles archéologiques, le 5 août 1983, le projecteur était fixé sur la ville de Palmyre et son affrontement avec Rome. Affaire de dynastie, de pouvoir, de succession, de rapport de force, avec les figures de Zénobie et Aurélien. Le développement et la richesse de Palmyre, Palmyre à mi-chemin entre la Mésopotamie et la Méditerranée.
Je me suis baignée et lavée, baignée dans le bassin chatoyant et lavée en la blanche cuve. Dans la cuve, je me suis frottée d'onguents, puis j'ai revêtu mon manteau de reine, reine du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je me suis enfermée chez moi. J'ai fardé mes yeux de colle. Mes cheveux ébouriffés, je les ai lustrés sur ma nuque. J'ai peigné mes mèches en désordre. Je sais la barrette et l'épingle à cheveux qui lui plaisent. Sur ma tête, j'ai rafraîchi ma chevelure crépue. J'ai regroupé mes tresses éparses afin qu'elles recouvrent ma nuque. Je me suis mis des bracelets d'argent aux mains. J'ai attaché autour de mon cou un collier de perlettes et j'en ai mis bien en place sur le devant de ma gorge le pendentif.
Qu'après la période hellénistique, la Syrie a été conquise par la puissance romaine et a fait partie de la juridiction romaine pendant un assez longtemps, pendant au moins deux siècles entiers. Et ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est un épisode qui se place pendant le 3e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire le moment où va apparaître une véritable nouvelle puissance en Syrie et une nouvelle puissance qui s'affirme tellement bien qu'elle va faire presque trembler Rome, si l'on peut dire, et qu'elle va dans un premier temps repartir à la conquête de la Syrie, et derrière cette reconquête, essayer même de construire un véritable empire. Cette tentative, c'est la tentative de Palmyre, et j'aimerais bien, professeur Bouni, que vous nous disiez déjà en quoi consistait, avant qu'on en arrive au moment crucial, en quelque sorte, d'affrontement de Palmyre avec Rome, en quoi consistait cette ville de Palmyre, quelles étaient ses caractéristiques, quel était son peuplement, à quoi elle correspondait au juste, de manière que nous puissions suivre justement ce qui va arriver par la suite.
Il faut dire que l'âge d'or de Palmyre, ce n'est pas le 3e siècle. Au 2e siècle, elle était en plein essor. Et à cause de l'avènement de la dynastie sassanide, qui a conquis les comptoirs de Palmyre sur l'Euphrate et sur le Tigre, que Palmyre était, à mon avis, dans une position très difficile. Rome, au 3e siècle, n'était pas tellement forte pour pouvoir arrêter l'extension de cette nouvelle dynastie perse. Et Rome ne pouvait plus faire le commerce international comme avant. Donc, Palmyre avait intérêt à rester avec Rome tant que Rome peut défendre ses propres intérêts et l'intérêt de son allié qui est resté deux siècles en très bons termes avec. Quand Rome était déchirée par ses guerres civiles et par ses difficultés, et les empereurs ne pouvaient plus rester que peu de temps, et quand un empereur était fait prisonnier sur l'Euphrate, etc., Palmyre, la dynastie de Dainate, puis sa femme Zénobie ont senti que eux, ils doivent agir à leur propre intérêt. Alors, vous savez qu'avant, Odainat était gouverneur de toute la Syrie. Et quand il était assassiné à Homs, il avait un fils très jeune, et sa femme qui gouvernait pratiquement, elle a essayé de rester en bon terme avec Rome. Mais Rome, vraiment, il était impossible. Donc, premièrement, elle a reconnu tous les titres de l'empereur. Son fils a pris les titres de son père. Mais quand les choses allaient de pire en pire, elle a pensé, à mon avis, à un moment donné, de se déclarer Auguste, se déclarer Septime Zenobia, donner les titres de l'empereur de Rome à son fils. Et là, elle a commencé à conquérir l'Anatolie, l'Égypte. Elle a fondé une sorte d'empire pendant un certain temps. Et même, peut-être, quelques historiens disent qu'elle a même pensé à continuer jusqu'à Rome et devenir impératrice, ce qui n'est pas prouvé du tout.
Bien, mais à travers ce que vous nous avez dit, on voit donc que la puissance de Palmyre ou la richesse de Palmyre, les deux allant ensemble bien sûr, commençait à s'affirmer dès le deuxième siècle après Jésus-Christ.
Oui, surtout là-bas, après la chute des Nabatéens en 106, c'est Rome qui a monopolisé pratiquement tout le commerce de l'Orient. Alors, entre le Méditerranée et l'océan Indien, c'était presque pratiquement Palmyre, la seule puissance commerciale à cette époque. Et les Romains acceptaient ça et le trouvaient très logique parce que les Palmyréniens étaient en plus de bons guerriers. Ils étaient avec les Romains sur le Danube, en Angleterre, Nord d'Afrique, partout. C'était de bons alliés à cette époque.
C'est ça. Et il faut dire en plus que du point de vue géographique, je crois que Palmyre se trouvait à une sorte de nœud, de chemin des caravanes,
oui,
qui explique en partie justement son développement et sa richesse.
C'est le chemin le plus court. En plus, il y a une oasis, il y a une source, il y a tout le moyen possible pour que ce soit une sorte de halte, un mi-chemin entre la Mésopotamie et la Méditerranée. Entre le Golfe et la Méditerranée, elle pouvait faire le commerce naval, si vous dire, et le commerce par terre. Ça, c'était le rôle de Palmyre. Et les Palmyréniens, d'après leurs tarifs, la loi fiscale, vraiment, ils prenaient beaucoup de taxes sur les commerces en transit, sur les marchandises qui entrent et qui sortent. Vraiment, ils tenaient très bien. Là. Et les Romains, en même temps, profitaient de ça. Ils avaient une garantie. Sur leurs frontières de leur empire, ils avaient une principauté amie qui a le même intérêt que son propre intérêt.
C'est ça, et donc ensuite il y a eu ces problèmes avec la dynastie perse des Sassanides dont vous nous avez parlé. Mais avant qu'on en arrive à Zénobie ou à la dynastie dont elle faisait partie, il me semble, vous me corrigerez si je me trompe, qu'en réalité cette dynastie était d'origine assez récente. Et que Palmyre, en fait, avant, si on peut dire, avait des institutions qui étaient plutôt des institutions de type républicain, de type aristocratique. Il y avait un Sénat. La monarchie s'est quand même imposée d'une manière assez tardive, si l'on peut dire.
Oui, c'est vrai, mais c'était, à mon avis, un développement naturel. Parce qu'avant, c'était l'oligarchie, les chefs des caravanes. Il y avait certainement un conseil de peuple, un Sénat, si vous voulez dire, boule et démos, mais c'était derrière les grandes familles riches. Ce qui est naturel. Et la famille de Dainat, depuis enfin le début du IIIe siècle, était connue. Nous connaissons leur tombe, nous connaissons leur fortune. C'était une famille de très très riche. Son grand-père et beaucoup de sa famille étaient des Samboziarques, des responsables des confréries. Elle était certainement l'élite, si vous voulez dire. Alors c'est naturel qu'une famille de cette façon, à cette époque. Et là, quand les choses ne marchaient plus, une famille, des gens d'avant-garde à cette époque, qui veulent profiter de la situation pour assurer à Palmyre son avenir. Ça, c'est naturel. Donc, ils n'ont pas trouvé une autre formule que faire une sorte de royauté. Et c'est, avant, ils étaient des gouverneurs, des princes, pas plus. Mais Rome agit d'une façon de négligent, si vous voulez dire. Il était très négligent vis-à-vis de Palmyre. Donc, ils ont voulu résoudre ça à l'oriental. Et ça, je crois que c'était comme ça, pas plus.
Bien, et donc il y a effectivement cette sorte d'évolution des institutions de Palmyre qui voit l'établissement d'une monarchie, en fin de compte, et qui nous amène donc à cette dynastie des Odaïnates.
Je voulais vous ajouter que le grand-père de Odaïnates s'appelait Rashtad Murtet de Palmyre déjà depuis plus que 50 ans. Alors, donc, c'est à commencer un peu tôt, cette royauté. Parce que Rashtad Mor, ça veut dire la tête de Palmyre, ça veut dire plus ou moins roi. Alors, et dans les milieux arabes avant l'islam, nous avons beaucoup de rois comme ça. Cette appellation n'est pas tout à fait l'appellation que vous comprenez. Un roi, un malek, peut être un grand chef de tribu, un grand chef d'une ville, quelque chose comme ça. Et quand il s'appelait Rashtad Mor, parce qu'il ne voulait pas être nommé roi, il était nommé seulement Rash, c'est-à-dire la plus importante personnalité de la ville. Et donc, les choses étaient logiques.
Gonflé de larmes, le jouvenceau s'en fut en la steppe, et s'étant mis son bâton sur l'épaule, il exhala une plainte. Lamente-toi, lamente-toi, steppe, lamente-toi, steppe, lamente-toi, pousse des cris marécages, ô crustacés de la rivière, lamentez-vous. Ô batraciens de la rivière, lamentez-vous, et que ma mère aussi pousse des cris, que ma mère Sirture pousse des cris, que ma mère pousse des cris, je ne lui apporterai plus jamais 5 pains, que ma mère pousse des cris, je ne lui apporterai plus jamais 10 pains. Si elle ignore le jour de ma mort, toi, steppe, annonce-le à ma mère, à ma génitrice, pour qu'elle me déplore avec ma jeune sœur.
À travers ce que vous nous dites, on voit toute une évolution tout à fait logique, et je dirais presque nécessaire du point de vue historique. Mais enfin, il y a quand même le moment où la monarchie, si l'on peut dire, est instituée tout à fait officiellement. Et où les Odaïnates et le roi de Palmyre, Yu Zénobi, va se trouver en position, effectivement, de reine de Palmyre. Et alors, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, justement, de la politique en même temps, la politique historique de Zénobi, dans la mesure où il semble qu'il y ait là, je dirais, un destin qui est assez fascinant. Dans la mesure où Zénobi a failli, finalement, influer très profondément le cours de l'histoire, a failli lui faire prendre un tournant tel que l'histoire aurait pu être différente, et que les choses quand même se sont jouées à très très peu, et où en même temps c'est une espèce de carrière assez fulgurante, puisque, autant que je sache, Zénobi a régné finalement très peu de temps. Ça a été quand même quelque chose qui s'est joué assez rapidement.
Oui. Alors l'arrivée d'Orléans en Orient a tout bouleversé, parce qu'il faut prendre en considération qu'à Palmyre même, il y avait plusieurs points de vue sur la situation. Il y avait le parti part, si vous voulez dire, perse, si vous voulez, qui est favorable à une sorte de collaboration avec la Perse. Il y a une partie encore, certainement, qui devait encore rester loyale à Rome. Et il y a la partie fondamentale avec Zenobi en tête. Ils ont pensé que la réaction de Rome ne serait pas tellement vite. Et Aurélien était certainement vite, et leurs forces, les forces des Palmyrena, étaient très, très respectables. Mais, à mon avis, l'armée de Zenobi était, enfin, pas très homogène. Ils avaient avec eux beaucoup, beaucoup de mercenaires, comme plus ou moins les Romains. Et le jeu, je voulais dire, n'était pas bien préparé. Donc, elle a perdu une bataille et deux batailles, malgré que sa bravure, malgré la compétence de son général Zabda. Ils ont perdu deux batailles. Et la résistance de Palmyre, après la chute de Homs, d'Antioche et d'autres sites, d'être ville importante, alors Palmyre ne pouvait pas seul résister à une armée venant de Rome avec tous les moyens et qui a gagné deux batailles. En plus, le secours du côté perse n'est pas venu en temps utile. Certainement, il y avait quelque chose ici qui ne marchait pas. Donc, mais elle était préparée à être victorieuse. Vraiment, elle avait toutes les qualités.
La guerre entre les armées romaines et les armées palmyriennes a tout de même été extrêmement difficile, puisqu'on sait que les autorités romaines, le Sénat romain, Rome en général, s'irritaient apparemment de ce que l'on pensait être la lenteur d'Aurélien vis-à-vis des armées palmyriennes, en disant « mais comment vous êtes en face d'une femme ?» et ne comprenant pas justement que les choses n'allaient pas plus vite, comme si Aurélien avait tout de même rencontré une résistance qui était tout à fait réelle et qui lui avait donné quand même beaucoup de difficultés.
Il disait, lui, ces sénateurs ne savaient pas à qui j'ai affaire. Ils ont pensé qu'il s'agit d'une femme, il faut faire un petit voyage, c'est fini. Mais à mon avis, malgré tout, il est venu un peu trop vite. Avant que Zenobi organise son petit empire, alors il ne suffit pas d'avoir des amis dans le pays ou bien en Égypte. En Égypte, il y avait de gros problèmes là. Alors, les historiens ne sont pas d'accord sur la situation en Égypte. Est-ce que vraiment elle a tout conquis? Mais elle n'avait, à mon avis, administrativement, politiquement, elle n'avait pas à arranger son petit empire, son petit royaume. Alors, il est venu, à mon avis, un peu vite, plus.
Est-ce qu'il n'y a pas eu, en même temps, du point de vue syrien, en général, disons, du point de vue de Palmyre, du point de vue de Zenobi, est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution de situation à Rome qui a changé les données du problème alors que finalement on ne s'y attendait pas tellement? Je veux dire par là que pendant une grande partie du IIIe siècle, finalement au moins pendant tout le début du IIIe siècle, après la fin de la dynastie des Sévères, Rome était soumise à des secousses politiques incessantes. On peut dire qu'il n'y avait plus de pouvoir central réellement très fort et que donc le jeu stratégique, politique, diplomatique qui était celui de Zenobi paraissait tout à fait possible et pouvait rencontrer un véritable succès. Et qu'en réalité, lorsqu'elle s'est retrouvée devant Aurélien, le jeu à Rome avait changé et Rome était en train de retrouver sa puissance. Et que donc là, il y a eu une sorte de hiatus, en quelque sorte, entre l'analyse historique qui pouvait être faite au départ et la situation réelle telle qu'elle a été sur le terrain.
Après quelques empereurs, de faibles empereurs, un seul empereur ne peut pas arranger la situation. Aurélien était un homme, certainement un guerrier de premier ordre. Et il a agi vite, il était bien équipé, certainement, mais il n'a pas pu, à mon avis, vu les choses qui vont suivre, il n'a pas pu redresser Rome. C'est pour cela que Rome est restée, plus ou moins, dans sa décadence jusqu'à l'époque de Théodose, là où il a dû couper l'Empire. Ça veut dire Rome s'est développée d'une façon, à mon avis, on voyait facilement que Rome va tomber. Alors, il y avait de temps en temps de bons empereurs, alors qui peuvent un peu arranger les choses. Pas longtemps, puis les choses reprennent, parce que il y a, à mon avis, d'autres raisons. Ce n'est pas l'existence d'un bon empereur qui suffit. Alors, l'exemple de Zenobi, c'est comme ça. Alors, Zenobi était très bon. Et pendant son époque, il a pu créer un empire. Mais après Zenobi, il n'y a pas autre qui a fait la même chose. Ça reste une sorte de veille qui a duré, une sorte de petit éveil qui dure quelques années, et puis ça, de nouveau, reprend. Donc, ce n'est pas un redressement de Rome qui a causé la défaite de Zenobie, à mon avis.
Je crois qu'il faut s'entendre sur les termes. Je veux dire qu'il n'y a pas un redressement général de Rome, et lorsqu'on suit l'ensemble de l'histoire romaine, on voit qu'effectivement, à partir de la fin de la dynastie des Sévères, je pense qu'il y a une chute absolument incessante, jusqu'au moment où l'Empire sera effectivement partagé en deux, de manière à ce que chacune des parties soit viable, puisque l'ensemble de l'Empire n'était plus viable. Donc c'est vrai sur le long cours de l'histoire romaine, mais malgré tout, est-ce que, je dirais, la malchance historique de Zenobie n'a pas été de se trouver devant l'un des rares empereurs quand même assez forts?
Oui, c'est vrai, ça. Ça reste, malgré que c'est un peu superficiel, mon jugement, mais ça reste une affaire entre deux personnes qui faisaient leur force. C'est Orléans, cette fois, qui a gagné la bataille. Parce que les Syriens, à mon avis, à cette époque, étaient déchirés un peu comme à Rome. Et le mosaïque du côté du nord de la Syrie, de l'Anatolie, tout comme ça, les gens pour, les gens contre, etc. L'élément politique n'était pas, à mon avis, bien étudié et calculé. Et le pays n'était pas organisé pour devenir un petit empire ou un royaume. Donc c'était une chose vite, malgré l'opinion des sénateurs, à mon avis qu'Aurélien a agi un peu vite.
Pourquoi t'être couvert la tête d'une étoffe? Pourquoi errer ainsi, berger? On a saisi tes brebis, emporté tes agneaux. Pourquoi errer ainsi? On a saisi tes chèvres, emporté tes chevreaux. Pourquoi errer ainsi? On a même emporté tes jolis ânons. Pourquoi errer ainsi? Ta belle baratte est en miettes. Pourquoi t'être couvert la tête d'une étoffe? Tes chevreaux les plus gros demeurent engourdis au bercail. Tes chevreaux les plus petits, belles de désespoir près des mangeoires. Tes agneaux orphelins gémissent contre le pied du mur de l'enclos. Pourquoi ton aimable sœur, émue par leurs plaintes, se fait-elle implorante parmi eux? Dans la steppe endeuillée, ton chien aboie tristement, et ton épouse verse des larmes amères en sa maison. Ta noble sœur, près de la porte d'entrée, se lacère les membres, s'arrache les cheveux, se déchire les membres, s'arrache les cheveux. Elle déracine sa chevelure, comme si c'était des tiges d'alpha.
Mais est-ce que de ce point de vue-là, la tentative de Palmyre, finalement, pendant ce IIIe siècle, n'a pas été, je dirais, l'un des derniers sursauts de la Syrie en tant que telle? dans la mesure où on a l'impression, tout au moins que, en tant que puissance réelle, on a l'impression qu'effectivement, le Palmyre avait su reconstituer tout un tissu impérial, bon, qui n'a pas pu durer pour les raisons que nous avons essayé de comprendre. Et on a l'impression qu'après la chute de Palmyre, il continue à exister des États, il continue à exister des principautés. La Syrie, bien sûr, ne disparaît pas en tant que telle, à l'évidence. Mais disons qu'un grand projet syrien, pendant au moins un certain temps, ne va plus pouvoir exister.
Syrie a continué à jouer. Palmyre, certainement, a reçu le coup. Mais la Syrie, en général, a continué à être une province très, très importante. Et certainement, avec l'époque byzantine, nous allons voir que c'était le bijou de l'Empire. Et je me rappelle toujours ce que disait Théodora à Justinien, que sa gloire, c'est dans cette partie de l'Empire. Il ne faut plus penser à l'Occident. C'est ici. Et vous savez quelle prépondérance avait ce pays à cette époque et combien de villes et de constructions les Syriens ont fait. Et ils étaient vraiment un des meilleurs constructeurs de cet empire. Et là, je crois que la Syrie, en général, n'était pas très touchée après la défaite de Zénobie. C'est Palmyre qui a souffert. Mais le reste, à mon avis, pour le 4e siècle et le 5e, etc., à continuer à vivre comme avant.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 1983. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.